Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi prochain à partir de 18h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
15h04 précisément sur Inter. On retrouve Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
France Inter, bonjour. Je dis France Inter parce que je tiens vraiment à remercier les participants, journalistes, que ce soit Daniel Mermet, Monsieur Demerand. C'est vraiment un plaisir et chaque jour un peu plus de plaisir à écouter. Aussi Stéphane Guillon que nous soutenons. Vraiment, j'espère que vous resterez tous en place. Même si mon message ne passe pas, c'est pas important qu'il passe. Mais je veux que vous sachiez que vous êtes tous appréciés. Les gens qui sont devant et les gens qui sont derrière et qui soutiennent et qui participent à différents niveaux. Donc à toute l'équipe de France Inter, merci d'être là, de faire entendre vos positions, vos sujets dans cette actualité qui est vraiment, et ces politiques désastreux, face à ces marionnettes qui s'animent, se remplissent les poches au passage, profitent d'un pouvoir que veulent bien leur donner ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent, s'ils sont serviables et obéissants. Donc merci aux gens qui sont moins serviables, moins obéissants ou qui servent d'autres causes et d'autres opinions. En tout cas, merci pour cette liberté d'expression et pour dire les choses.
La semaine dernière, Honduras, le professeur Juan Manuel Flores a été assassiné devant ses élèves et ses collègues de travail au collège El Pedregal. Il était membre de la résistance. Honduras, la semaine dernière, les dirigeants du syndicat universitaire Citrugnac ont été emprisonnés. Honduras, la semaine dernière, deux journalistes du canal 4 de Juticalpa, membres de la résistance, ont été criblés de 60 balles. Ce soir, à l'Université de Pau, dans le cadre du Festival latino-américain, grande soirée de solidarité avec l'Honduras en présence de Carlos Humberto Reyes, figure emblématique de la résistance.
Salut là-bas, si j'y suis, c'est Scan. J'appelle pour ma maman Geneviève qui nous a quittés. Je voulais remercier là-bas, si j'y suis, pour tous les moments agréables qu'il lui a fait passer. Je crois que après avoir fait tant voyager, ma mère a bien profité de leur vie grâce à là-bas si j'y suis. Merci. Au revoir.
Bonjour là-bas si j'y suis et bon anniversaire. Ça fait 20 ans que vous nous réjouissez et vraiment cette émission d'aujourd'hui nous a vraiment, enfin moi personnellement, ça m'a rafraîchi l'esprit, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Eh bien, continuez comme ça, on a besoin de vous et accrochez-vous et merci pour tout encore. Salut.
Bravo pour votre émission, là-bas si j'y suis, sur la princesse Edmée et sa passion pour les escargots. Complètement du gudu, mais enfin une bouffée d'air frais dans ce monde absurde et violent.
Salut Daniel, nous serons 5 sympathisants Réseau Éducation Sans Frontières à comparaître devant le tribunal de grande instance de Pau en juin prochain. Notre faute, avoir fait référence à Vichy dans un mail à la préfecture du 64, condamnant l'expulsion d'une famille en situation irrégulière. Tous les soutiens seront évidemment les bienvenus. Nous n'avons pas l'impression d'avoir outragé qui que ce soit. Nous avons au contraire accompli, je crois, un devoir citoyen. Merci d'avance de tous les soutiens.
Oui, Francis de Roubaix. Salut Daniel et puis bravo aussi à Pascal Pascariello pour ce reportage extrêmement pertinent sur Pôle emploi. On y découvre un univers tout à fait kafkaïen où l'aliénation des chômeurs rencontre celle des salariés de cette institution et puis qui pour certains essayent de trouver courageusement pour rester au service des usagers dans leur travail réel, vraiment des trésors d'intelligence par rapport au travail qu'il aurait prescrit. J'ai pourtant une critique à te faire, Daniel. À un moment, tu emploies le mot totalitarisme, je le mets entre guillemets, pour caractériser le fonctionnement de cette machine à fabriquer des fausses statistiques qu'est Pôle emploi. Le terme et sa référence me semblent malvenus. ce n'est pas de totalitarisme, mais de méfaits du capitalisme dont il s'agit. Dans un ouvrage récent et remarquable de rigueur, traduit de l'anglais et paru chez Agone, intitulé « Les intellectuels contre la gauche, l'idéologie antitotalitaire en France 1968-1981 », Michael Christopherson, qui est professeur d'histoire contemporaine à la Pennsylvania State University, revient sur la vigoureuse offensive au cours des années 70 contre le totalitarisme de gauche. Dans leurs livres, leurs articles et à la télévision, les intellectuels antitotalitaires dénonçaient sur un ton dramatique une filiation entre les conceptions marxistes et révolutionnaires et le totalitarisme. Cet antitotalitarisme, entre guillemets, a opéré la droitisation de la gauche intellectuelle et politique française. Dans ces intellectuels antitotalitaires, on peut citer Glucksmann et un que je sais que tu apprécies particulièrement, BHL. Décidément, le capitalisme qui a servi les peuples avec les processus d'aliénation qui y correspondent reste bien le vocabulaire qui évite les pièges de cette notion molle qui est le totalitarisme. Alors Daniel, critiquer ceux que l'on aime, je pense que c'est un devoir. Ciao.
Ciao, merci pour ces observations. Effectivement, le livre de Michael Christopherson, Les intellectuels contre la gauche, est tout à fait passionnant. Et j'espère qu'on pourra, comme on l'a prévu, le rencontrer dans les semaines qui viennent et faire un entretien avec lui. Ce livre est remarquable sur le totalitarisme, mais le totalitarisme évoqué par Anna Arendt dans la citation que j'ai faite, à savoir le totalitarisme, c'est quand l'homme devient superflu, ne concernait pas le totalitarisme visé par les intellectuels contre la gauche de la fin des années 70, mais bien contre le totalitarisme hitlérien nazi. Bon, on reparlera de ça plus tard. J'adore le mot dugudu, je sais pas d'où ça sort. Cette auditrice qui dit elle est complètement dugudu, c'est très sympa, très marrant. Et puis je voudrais vous raconter quelque chose qui me fait rire depuis trois jours. Un message qu'on a reçu vendredi d'un auditeur et qui évoquait, on a eu beaucoup de messages très touchants et très formidables autour de Jean Ferrat, hommage à Jean Ferrat, émotion, souvenir, c'est vraiment magnifique et un peu partout sur le net circulent des messages comme ça d'amitié. Et qui sont, bon, enfin, ça fait du bien. Et un auditeur raconte que la première fois qu'avec un copain, ils étaient jeunes, ils ont entendu la chanson de Ferrat, le poème d'Aragon, Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un prince au bois dormant? Que serais-je sans toi? Etc. Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Ok? Et les gars étaient maçons, ils bossaient, ils étaient maçons. Et le copain n'avait jamais entendu ce mot balbutiement. Il a cru que c'était bal du ciment, le bal du ciment. Et après, quand ils chantaient ensemble, ils reprenaient les maçons, c'est des gars souvent qui sont dans des pièces un peu vides, ça sonne bien. Vous voyez, comme les peintres en bâtiment, ça sonne bien, on aime chanter. Et le gars chantait et ce bal du ciment. Voilà, c'est absolument merveilleux, c'est un très beau. Très belle histoire, très touchante. Aujourd'hui, une histoire touchante aussi, celle de 2 800 000 pigeons. 2 800 000 pigeons, c'est un reportage de Charlotte Péril, s'est penché sur ces 2 800 000 pigeons. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se sont fait plumer par Natixis. Eh oui, aujourd'hui, on va au secours de ces pigeons-là, encore qu'on se demande si ils l'ont pas volé de cette fait plumer ces pigeons-là. On va en savoir plus, en tout cas, au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis. Oh, 01 56 40 37 37.
Salut les MG, salut Daniel. C'est au sujet de l'élection municipale de Corbeil-Essonne. Bah ouais, peu d'acharnement, un petit peu comme Daniel à une époque, t'es content, t'es satisfait Daniel, donc l'élection est annulée, deux commentaires sur lemonde.fr, si on peut plus ni acheter les électeurs, ni placer un homme de paille, où va la démocratie plutocratique? C'est désespérant. Et puis il y en a un autre qui dit, on va regarder le commentaire demain dans le Figaro. ceux qui n'ont pas le code, la famille Dassault possède le Figaro. Bon courage à tous, bon week-end, à bientôt. C'était Renaud de Lyon.
J'ai écouté les deux jours de reportage sur la NPE et il n'y a vraiment rien acheté. Hein. C'est dommage que l'autre avocat, il n'écoute pas France Inter. Je ne suis pas sûr que pendant ce temps-là, il l'ait écouté. Moi, j'ai pris une décision. Hein. Depuis un an, je me suis mis dans la peau du pauvre con. Sauf que celui qui a été insulté par Sarkozy, lui, il reste en France. Eh ben, moi, pas, tu vois. J'ai pris ma retraite début décembre et je me casse au Brésil. Et avec une retraite moyenne, eh ben, là-bas, tu es le roi du pétrole. Et puis en plus, il y a de l'ambiance. Hein. Parce qu'en France, tout le monde tire la gueule, alors que les Brésiliens, eux, ils sont toujours joyeux, tu vois. Ils ont une thune, mais tout va bien. J'irai payer des impôts, mais pas beaucoup, au Brésil. Et dans l'affaire, le pauvre con, eh ben, c'est toi. Hein. Allez, salut. Salut l'avocat.
Salut les AMG, c'est pour préciser que le repère des amis de là-bas, si j'y suis, de Briouze, dans l'Orne, aurait lieu le mercredi 31 au Café Tabac Le Brazza, 22 rue du Docteur Petit, à Briouze, dans l'Orne. Voilà, venez nombreux, salut les AMG.
Bonjour à tous, c'est un Sénégalais dont j'ai oublié le nom, qu'il me pardonne. Un boulanger sénégalais qui est rue des Abbesses à Paris, qui vient de gagner le concours du meilleur boulanger parisien. Cela lui donne le droit, entre autres, de fournir pendant un an le palais de l'Élysée. Et nous, on s'en réjouit parce que c'est ça la France qu'on aime. Mais il faudra peut-être prévenir les Hortefeux, les Besson, les Morano et compagnie la prochaine fois qu'ils seront les invités à l'Élysée. Merci.
Lorsque je suis allée à ma banque, me dit tiens, et voilà, il y a une nouvelle banque qui vient de se créer, ça monte terriblement. Mon Dieu, ça monte, on a les yeux qui s'ouvrent, les yeux qui brillent quand on vous dit des choses pareilles.
Derrière chaque projet, il y a des hommes et des femmes.
Il fallait que chacun de nos clients ressorte avec des actions en addiction.
Qui crée, qui planifie.
On vous a fait fermer votre livret.
Pour Natixis, oui. C'est bien ça, hein. Ça, c'est ce qui s'appelle faire des affaires, oui.
Il y a des hommes et des femmes qui trouvent des solutions financières pour que ces projets puissent exister. Ce sont les experts de Natixis.
Et c'est vrai que le produit de cette vente, j'y ai jamais touché. Et depuis 2005, j'ai pas acheté de voiture, j'ai pas acheté de téléphone, j'ai pas acheté de pantalon avec. J'ai rien acheté, l'argent, il est là, sauf l'argent de Natixis qui s'est envolé en fumée. Je veux récupérer un morceau de ma maison. Voilà.
Natixis, la banque d'investissement et de projet.
Bientôt, vous pourrez en devenir actionnaire.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. 2 800 000 pigeons.
Flight number 2, arriving from New York.
Bravo, tous ensemble, vous avez su vous mobiliser pour réussir l'opération de marché de Natixis.
Sophie,
plus d'un million de nos clients et sociétaires ont choisi de devenir actionnaires de notre filiale commune avec les banques populaires.
Conseillère financière chez Natixis.
Un résultat qui peut susciter une légitime fierté chez chacun de vous. Cette performance est à la hauteur des ambitions que nous plaçons dans Natixis. En moins d'une année, nous avons ainsi franchi avec brio une étape déterminante dans l'histoire, déjà riche en aventures, des caisses d'épargne. Outils de collecte populaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les caisses d'épargne ont acquis en quelques années une dimension pleine et entière d'établissements bancaires et d'acteurs reconnus sur le marché européen. Quelle trajectoire! Vous avez démontré votre capacité à vous surpasser dans les grands moments, comme des sportifs de haut niveau. Dès aujourd'hui, d'autres défis nous attendent. Ensemble, il nous appartient de les relever. Bonne année 2007 à vous et à vos proches. Voilà, c'était une déclaration du président du directeur de la Caisse nationale des caisses d'épargne, Charles Millot.
Vous avez des projets? Vous voulez le bonheur des vôtres? De vos enfants, de vos petits-enfants. de vos arrière-petits-enfants? Nous aussi. Nous sommes avec vous. Nous vous accompagnons. Une seule condition. Filez-nous votre pognon. Et tirez-vous, pigeon. Signé Natixis. Et voilà, 2 800 000 pigeons ont confié leurs noisettes à Natixis. En étant sûr que ça ferait des petits. Soyez sans inquiétude, c'est un placement sûr, aussi sûr que le livret A. Sauf que ça vous rapportera beaucoup plus. Bon, ben, si vous le dites, elle a dit, la petite dame, cliente de la caisse d'épargne, titulaire d'un livret A, et puis elle a oublié. Mais le lendemain, sa conseillère l'a rappelé, le samedi, le dimanche, le soir. Elle l'a rappelé, la petite dame, cliente de la caisse d'épargne et titulaire d'un livret A. Oui, ils n'ont pas ménagé leur peine chez Natixis. Il faut dire que les conseillers financiers touchaient de confortables primes pour chaque paquet d'actions placées. Dans les agences, des jeux de rôle avaient été organisés pour répéter l'argumentaire. Dans 6 mois, Natixis figurera parmi les 15 plus grosses capitalisations boursières françaises. Et dans 3 ans, l'action vaudra 40 euros. Alors, la petite dame, cliente de la caisse d'épargne et titulaire d'un livret A, a fini par accepter. Elle a fait ce que lui disait sa conseillère en se disant que ça rapporterait et que ça ferait de jolis cadeaux aux petits-enfants. Et puis d'abord un coup de pouce aux enfants qui sont au chômage. 10 000 euros, elle a donné, 10 000 euros d'économie. Aujourd'hui, il reste à peine 200 euros. 2 800 000 pigeons. L'opération a rapporté 5,5 milliards d'euros à Natixis. Mais entre 2006 et 2008, les actionnaires ont perdu 92% de leurs titres. 19,55 euros en novembre 2006 et 1,50 € en 2008. Natixis est la fusion, la filiale de la Caisse d'épargne et de la Banque Populaire. Caisse d'épargne, Banque Populaire, ça fait pépère, ça fait... C'est pas des banques de spéculateurs, c'est là où on met son argent, histoire que les souris vous le mangent pas. Voilà cette histoire. Mais c'est pas la seule, il y a d'autres histoires récentes. Ça se multiplie même, ces histoires-là. Souvenez-vous de... des actions EDF en 2005. Là aussi, avec des bonnes primes, des bonnes carottes, les conseillers bancaires avaient déployé tous leurs ailes. Si bien qu'après enquête, le régulateur boursier, l'autorité des marchés financiers, a infligé en novembre 2008, à la BNP Paribas et à la Société Générale, un avertissement et une amende de 500 000 euros, comme ça, en passant une petite brimade, un petit coup sur les doigts. Voilà ce que nous allons évoquer aujourd'hui. On se demande, mais... qui finalement lutte véritablement contre le capitalisme, hormis Nicolas Sarkozy, qui est l'adversaire le plus farouche du capitalisme. Celui qui vraiment a été le plus efficace dans l'époque récente, c'est un certain Bernard Madoff. Ah oui, 50 milliards de dollars, il l'aura pris au capitaliste, à lui tout seul, dont au passage d'ailleurs 614 millions à Natixis. Oui, Natixis avait placé les cacahuètes, les petites noisettes de la vieille dame, et chez Madoff, 614 millions. Natixis a perdu au passage. Mais enfin, voilà, ce Madoff a fait perdre 50 milliards à ces hardis capitalistes. Et leur cupidité. Imaginez un deuxième Madoff, 10, 100, 1000 Madoff. Imaginez, encore mieux, des Madoff qui redistribueraient des Robins des Bois Madoff. Pas mal, non? On peut rêver. On peut rêver. En tout cas, les 2 800 000 pigeons ne rêvent lu beaucoup et sont là au milieu de leurs plumes épars, hagards, et ils sont avec nous jusqu'à 16 heures dans la Basse Jésus.
Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes, quand on a perdu le vice des bisques, des crevisses, des rillettes, de la Sarthe, quand la vue d'un striptease vous fait dire quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduc pour voir la vie en rose. Une bonne perle claque dans la gueule, un bon coup de sabbat dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça vous fait une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, un direct au creux l'estomac, les orteils coincés sous une meule, un coup de latte en plein taille. Ça enterre tout, la drogue et l'aspirine, les épinards, la schnouf et la badoie. C'est bien plus bas que le foie noir en terrine, car c'est moins cher et ça n'alourdit pas. Une bonne paire de claques dans la gueule, et la vie reprend tout son prix. Chaque matin, quand on se sent seul, claquons-nous la gueule entre amis.
Là, c'est quoi?
Toute la partie bas.
Ah oui.
C'est inhabitable.
C'est une terrasse.
Ça, c'est la cour. Ah, c'est une terrasse.
Mmh. C'est la terrasse et ici, on va dire, c'est la maison. La maison qu'on est en train de construire.
Ici, j'avais envisagé pour refaire tout ça. Refaire les chambres qui sont là. Pour qu'on puisse venir habiter là, parce qu'avec la petite, le haut, c'est trop petit maintenant.
Et là, il y a tous les blocs de ciment,
il y a les gravats, il y a les parpaings, il y a tout ça. À remonter, c'est faisable, mais bon, maintenant je suis bloqué financièrement, donc je ne peux rien faire. À cause des titres qu'on a fixés.
Voilà, il y a ceux qui trinquent et ceux qui raflent. Là, on est, vous avez compris, chez ceux qui trinquent. C'est Eric et Rosanna, c'est à quelque part en Seine-Saint-Denis, ils ont la quarantaine, la bonne quarantaine. Ils ont une fillette de 9 ans. Et lui, Eric, écoutez bien, il était délégué syndical CFDT, où ça? Chez Natixis. Ah oui, chez Natixis. Et ben, il a pas résisté aux appels de la commercialisation des actions de Natixis et il a mis son épargne là-dedans. Il a placé ses cacahuètes dans Natixis à hauteur de 40 000 euros. Eric et Rosanna.
J'ai été amené à prendre les actions Natixis parce que, à l'ouverture de l'achat, l'action avait bien progressé, ça marchait très 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 bien. On atteignait au niveau de cette progression 5% quand même, c'était très intéressant. 5% du coupon, c'était quand même pas mal. Et donc je me suis dit, bon mais c'est quand même ma banque, je travaillais dur, mes collègues travaillaient dur, je me suis dit, bon avec le fruit de notre travail, on réussirait, ben finalement, bon mais il y avait autre chose.
Alors parce que vous travaillez chez Natixis.
Oui. À l'époque, je travaillais chez Natixis et puis bon.
Vous faisiez quoi chez Natixis?
J'étais syndicaliste et employé de banque. J'ai tout mis dessus, j'ai tout misé et puis finalement, j'ai tout perdu aujourd'hui. Ça, on s'y attendait pas à cette histoire de subprime et.
Vous aviez placé combien? Vous aviez acheté combien de titres?
Au départ, 900 titres à 19. Et après, bon, mais avec l'augmentation de capital, c'est ça? J'ai acheté combien encore? C'est un supplément?
On arrive à 1900 titres aujourd'hui.
On arrive à 1900 titres aujourd'hui.
C'est
qui représente combien ?
35 à 40 000 euros, à peu près.
Et par rapport à votre épargne, ça représentait une grosse partie de votre épargne ?
C'était 100%. Tout, 100%.
100%
c'était 100% de notre épargne, plus au niveau de l'épargne salariale. On a écouté les dirigeants de chez nous, qui nous a franchement mis en confiance à 100%. Et puis, on a remis ce qu'on avait au sein de la banque, même sous Natixi. Et donc, c'est du 100%, ça fait du 100%. On peut pas mieux dire, on peut pas dire, on peut pas dire au moins, on mentirait. C'est du 100%. J'ai fait un prêt revolving pour acheter. Un prêt revolving. Alors, je remets encore une couche. Le malheur s'est acharné de part et d'autre sur nous, et puis, on se retrouve sur la paille.
Pourquoi pas avoir mis l'argent sur un livret classique ?
Bon, un livret classique du 4%, bon, c'était pas dans l'état d'esprit de l'époque. C'était bien plus, puisqu'étant habitué à plus. Donc, d'une moyenne d'une dizaine de pourcents le titre, c'était quand même alléchant.
Mais pourtant, enfin, les actions, on sait que ça monte, ça peut descendre. Comment vous avez pu croire que vous pouviez pas perdre ?
Oui, ben à ce niveau-là, on fait confiance à une banque ou on fait pas confiance à une banque. Quand on place de l'argent sur une banque, on peut pas penser qu'une banque peut arriver à ce niveau-là. À ce niveau, c'est vraiment la décadence. Puis aussi, il faut dire une chose. Au départ, quand il a commencé à y avoir des pertes, on nous a dit c'est simplement un produit pollué. On s'y attendait pas que c'était tout un système qui se produisait à la banque Lehman Brothers et que Natixi était à 100% avec. On ne savait rien du tout de tout ça. Dans 10 ans, on n'atteindra jamais 19 euros. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse encore pour que ça fasse 19 euros? Recommencer le business avec Lehman Brothers qui est crevé aujourd'hui. Il faudrait recommencer le même système pour atteindre ce but-là. Et là, ça m'étonnerait que on laisserait les banques, quel que soit le gouvernement, ils laisseraient les banques faire ça. La provenance, c'est qu'Obama fait tout aujourd'hui pour ne pas que ça se renouvelle.
C'est pas honnête, donc la moindre des choses, c'est de retrouver au moins son investissement. Parce que bon, perdre autant, c'est affolant. C'est une énorme somme. Donc c'est vrai que s'associer pour porter plainte, je trouve que c'est bien. Au moins c'est fait de façon publique et au moins là tout le monde sait que bon Natixi n'a pas été honnête. Ils sont bien servis de notre argent. Maintenant bon ben nous on a tout perdu, on veut récupérer ce qu'on a investi, c'est tout.
On ne lâchera pas. C'est simple, on ne lâchera pas.
Derrière chaque projet, il y a des hommes et des femmes qui bâtissent, qui façonnent, qui créent, qui planifient. Et derrière toutes ces énergies, il y a des hommes et des femmes qui trouvent des solutions financières pour que ces projets puissent exister. Ce sont les experts de Natixis. Natixis, la banque d'investissement et de projets.
Bientôt, vous pourrez en devenir actionnaire.
Alors, je suis Guillaume Maujean, journaliste aux Échos, et je suis chargé de suivre le secteur bancaire. Alors, Natixis, c'est d'abord l'histoire d'une fusion entre deux activités de banque de financement et d'investissement, donc la banque qui est tournée vers les marchés. Donc, Ixis d'un côté, qui appartenait aux caisses d'épargne, a fusionné avec Natixis, qui appartenait à la Banque Populaire, en 2006, pour créer Natixis. Ils ont mis en bourse une partie de Natixis et pour cela, ils ont voulu faire un grand placement populaire. Donc, ils ont fait appel aux épargnants et notamment aux clients des caisses d'épargne et des banques populaires. Ils ont même plutôt réussi puisqu'ils ont donc attiré quasiment 3 millions de personnes qui ont souscrit l'opération. De mémoire, c'est un peu moins de 6 milliards d'euros qui ont été placés sur les marchés là-dessus. C'était un des placements comme celui de Gaz de France, par exemple, donc très populaire. Et pour cela, effectivement, ils ont vendu aux épargnants l'action Natixis comme un placement peu risqué, comme un placement assez sûr, en disant que l'action atteindrait très vite les 40 euros, sans forcément présenter les aspects négatifs de la banque de financement et d'investissement, qui est un métier assez peu compris du grand public. Et effectivement, ils ont négligé la présentation des risques que comportaient ces activités. La fusion a donc lieu en 2006, le placement a lieu fin 2006. Et début 2007, c'est là qu'on va s'apercevoir que la crise financière va toucher les banques, en particulier les banques de financement et d'investissement. Natixis va progressivement énormément souffrir, va voir son cours de bourse s'effondrer. On est descendu de donc presque de 20 euros à 12, 6, puis 1 euro au plus bas il y a exactement un an, début 2009. Et là, le cours en ce moment tourne autour de 3,50 euros, 3,70 euros. Et donc, les épargnants vont être lésés par cette introduction en bourse. C'est-à-dire qu'ils sont toujours coincés avec leurs 19,55 euros de prix de départ et l'action ne retrouvera évidemment jamais ces niveaux-là. Je crois que la situation a radicalement changé. Natixis n'a plus du tout les mêmes ambitions que par le passé. Elle a dû réduire la voilure, notamment les activités de marché les plus risquées qu'elle a décidé de ne plus faire. Et donc la nouvelle direction a décidé de recentrer Natixis voilà, sur ce qu'elle savait faire de mieux, de plus simple, qui sont des activités pas forcément les plus risquées, pas forcément tournées vers les marchés, mais du coup des activités qui rapportent moins. Et donc le cours n'a quasiment aucune chance de retrouver les 19,55 euros auxquels il avait été vendu aux épargnants. Alors Natixis va un peu mieux aujourd'hui, alors ils restent assez handicapés par le poids de leurs actifs toxiques. On les estime aujourd'hui à 30 milliards d'euros. Ce qui est certain, c'est qu'il faut suivre de très près l'évolution de ce portefeuille qui reste très important et qui peut donner lieu encore à de nouvelles dépréciations.
Pas facile de s'enrichir hein, de cette façon-là. Et quand on est un petit personnage moyen... Comme vous et moi, c'est pas facile. Voilà le témoignage d'un autre pigeon, monsieur Henri B. Il vit dans le sud de la France. Il est retraité. Il travaillait dans l'hôtellerie et il avait placé 3000 euros en actions Natixis.
Qu'est-ce qui vous a amené à prendre des actions Natixis?
Bien, la confiance que j'accordais à l'établissement, la caisse d'épargne, hein. Et l'encouragement qui m'était fait par les responsables de l'opération dans l'établissement. Mais avant de parler de ce qui m'est arrivé, j'aimerais resituer les choses. La caisse d'épargne n'était pas un établissement bancaire ordinaire. Je suis d'une famille modeste, comme beaucoup de clients, je pense, de la caisse d'épargne. Et chez mes parents, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et quand il y en avait, il allait directement sur le livret, non pas d'épargne, mais le livret de la Caisse d'épargne, sous-entendu de la Caisse d'épargne de France. Et donc, c'était tout naturel que je fasse confiance à la Caisse d'épargne et que je prenne le produit qu'on proposait. Je n'ai pas de grandes connaissances hein, dans les produits boursiers.
Et dans cette affaire, vous aviez placé combien de...
Eh bien, j'ai les chiffres qui doivent être là. J'en ai pris pour 3108,45 €. Hein, j'étais, avec dérision, je souligne, un client privilégié de la Caisse d'épargne dont j'en ai eu beaucoup. Quand on a entraîné dans ce genre de spirale, les gens comme moi, puis les gens, je pense que je rencontre dans le hall de la Caisse d'épargne, mais ils réagissent pas. Parce qu'ils se tournent vers à nouveau leurs conseillers, qui ne savent pas quoi leur dire, hein, et qui disent, on fait le dos rond. Voilà ce qu'on dit à des gens comme nous. Hein, on ne casse pas tout, on se dit, on va attendre, ça repartira. Voyez,
Aujourd'hui, vous vous estimez trompé, volé par votre banque?
Volé, non. Alors que c'est un terme plus grave que trompé, mais dans le cas présent, j'ai été trompé. Et c'est un terme que je mets bien au-dessus que voler. Ça a été fait avec légalité. La Caisse d'épargne nous a mis entre les mains Natixis, hein, a confié ses clients à Natixis. Elle n'a pas surveillé Natixis. Moi, j'avais délégué mon pouvoir de surveillance au responsable de la Caisse d'épargne. Là, on est dans la manipulation financière, hein, et on est dans les madofferies. Alors, bien sûr, c'est un produit de bourse, mais là, on a subi les chocs, disons, d'une forme de malhonnêteté. Pour ma part, je serais assez honteux de porter la responsabilité de ce genre de choses. Je vous le dis. Et je souhaite qu'on obtienne de cette banque qu'elle assume ses responsabilités, qu'elle reprenne ses titres à leur valeur d'émission. Ce que, je pense, les autorités... de la contraindre à faire.
Vous-même, vous n'avez pas quitté la caisse d'épargne?
Non. Non, parce que c'est compliqué de quitter sa banque. On est un peu enfermé, vous savez, vous avez des prélèvements réguliers qui se font, c'est compliqué. Voilà, alors bon, j'ai pas quitté la caisse d'épargne, je pense que j'aurai le bon sens de résister à de nouvelles offres.
Frédéric Lordon, on n'a plus besoin de vous présenter à la BACI, j'y suis, mais est-ce que je peux quand même vous demander de vous présenter ?
Alors, sur le papier, je suis économiste et je suis chercheur au CNRS. Alors, je dis sur le papier, je suis économiste parce que je fais un genre d'économie qui me plaît de moins en moins à mes collègues économistes. C'est vraiment bizarre parce que je vais vraiment me payer un moment de contre-emploi. Hein. Je vais donner des conseils financiers. Bon, alors, c'est du conseil financier négatif parce que le conseil positif, je suis incapable d'en donner. Mais mon conseil financier négatif, ce serait n'achetez pas des actions. N'achetez pas des actions. Et pour deux raisons, au moins. La première, c'est qu'il faut bien voir tout de même que l'épargne des épargnants investis dans les actions est le carburant par lequel on nourrit la machine financière qui opprime le salarié, c'est-à-dire à la fin des fins l'épargnant. Bon, donc il y a un effet de serpent qui se mord la queue hein, ou de circulation circulaire de cette épargne qui est impressionnant et qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc c'est un produit toxique. L'action est un produit toxique, mais pas au sens financier du terme. Non pas qu'elle ne puisse pas boire des bouillons monumentaux, mais je dirais que c'est un produit financier politiquement toxique. Et ça, c'est déjà, ça me semble être une raison suffisante de l'éviter. Ajoutez à ça la deuxième raison, qui est que c'est un produit extraordinairement instable, avec lequel les possibilités de perte sont absolument omniprésentes. Et vous avez de bonnes raisons de vous tenir au loin de ce genre de produit. Donc, je veux dire, à la régulière, on peut tout perdre. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Alors, je sais bien, je veux dire, les banques en disent de moins en moins long sur les produits financiers qu'elles vendent. Il y a des petits épargnants qui ont bu la tasse avec Natixis et qui se sont laissés abuser par le crédit dont ils revêtaient a priori des institutions jusqu'ici aussi fiables que la Caisse d'épargne, les banques populaires, etc. et qui ont cru les yeux fermés ce qu'on leur racontait. Non mais c'est ça le pire dans cette affaire. Depuis que le capitalisme financiarisé est lancé, on assiste à un dévoiement actionnarial du principe mutualiste qui est simplement consternant. Je veux dire, ça fait vraiment de la peine. Le principe mutualiste, je veux dire, c'est pas non plus l'autogestion, faut pas exagérer, c'est pas le grand soir ou le monde nouveau. Mais enfin, c'était quand même une logique qui était significativement hétérogène à celle du capitalisme privé actionnarial. Donc c'était une enclave assez magnifique, mine de rien. Or, les entreprises mutualistes ont eu envie d'aller jouer dans la cour des grands, comme tout le monde. Elles ont eu envie de prendre part au grand jeu de la mondialisation, au Kriegsspiel des fusions, acquisitions, etc. Et pour ce faire, il leur fallait devenir des sociétés par action comme les autres. Donc elles ont commencé à ouvrir leur capital, à avoir des actionnaires privés comme n'importe quelles autres entreprises, et de plus en plus à importer toutes les logiques du monde privé, de telle sorte que la différence entre le monde mutualiste et le monde privé sous actionnariat est devenue évanescente. Elle est maintenant des plus ténues. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, des entreprises comme Banque Populaire ou la Caisse d'Épargne, qui est quand même des fleurons du mouvement mutualiste, sont devenues ce qu'elles sont devenues. C'est-à-dire des entreprises pitoyables qui finissent, effectivement, dans des déconfitures qui seraient risibles si elles n'avaient pas causé du tort à un si grand nombre de personnes.
Je lis en première page que sur telle ou telle plage il y a eu un naufrage et que des gens sont morts noyés, c'est dommage parce qu'ils n'avaient pas d'engin de sauvetage. Je suis triste un court instant mais ça dure pas longtemps car j'ai mis de l'argent dans les actions d'une société, mon présage qui fait des bouées de sauvetage. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très 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 content. «
quand j'entends à la radio qu'un grand marchand d'auto met des gens sur le carreau pour fabriquer très loin, pas cher ses autos, là où le boulot ne vaut pas un euro. Je suis triste un court instant, mais ça dure pas longtemps, car j'ai mis de l'argent dans les actions de la société en question, et pour moi ça fait des ronds. Je suis actionnaire et j'aime beaucoup l'argent. Si je sais bien pleurer par devant, je sais aussi rigoler par derrière. J'ai parfois un peu honte d'aimer autant l'argent, mais quand je fais mes comptes, je suis très 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 content.
Comme je suis fonctionnaire, une fois par an, on a une prime.
Claude, actionnaire de Natixis.
Et comme j'étais en surendettement, j'ai vu avec mon conseiller qu'est-ce que je pouvais faire de cet argent-là. Et puis il m'a dit, ça tombe bien, voilà, je vais vous proposer des actions Natixis. Alors, ça me fait un peu peur, parce que quand on est en surendettement, c'est vrai que c'est des choses, c'est des risques qu'on peut pas trop prendre, enfin, que j'avais pas envie de prendre. Mais c'est vrai qu'il insistait, il était très sincèrement très, très, très insistant. Et... Bon, j'ai dit oui, bon, je veux bien une part. Il m'a dit non, non, une part, ça vaut pas le coup de réserver pour une seule part. Il faut en prendre plusieurs. Et il a insisté. Ce qui, moi, je me sentais un peu en danger, mais il me laissait pas vraiment le choix. Donc, on est parti sur plusieurs actions. Je crois trois parts. Je pense qu'il m'avait conseillé de prendre trois parts. Et c'est très vite dégringolé.
Vous en aviez pour combien d'argent ?
La moitié de ma prime, donc je crois que la prime était de 1200 euros, je crois que j'en ai eu, voilà, pour la moitié. Parce qu'il a insisté, vraiment, en me disant que pour moi et dans ma situation, c'était ce qu'il fallait faire. Il m'a dit, vous vous rendez compte, si vous récupérez, alors il est évident que quand on a pas d'argent, qu'on nous laisse miroiter, que dans quelques mois, j'en aurai le double, voire, voilà, donc c'est forcément intéressant. Et moi, c'était pas mon, j'étais pas partie du tout. J'étais réellement partie pour qu'il me conseille, pour que cet argent puisse faire des bébés quelque part, mais pas ça, quoi. Sincèrement, je lui ai fait confiance.
Et donc, quand vous avez observé que ça dégringolait, ces actions de Natixis, vous êtes retourné le voir, vous êtes allé vous plaindre?
Je suis retourné le voir. Et puis, il me dit, généralement, quand ça descend comme ça, ça ne peut que remonter. Donc, il faut attendre. Je lui dis, mais je sais pas si c'est intéressant. Là, pour le moment, ça dégringole. Donc, moi, j'ai pas d'argent, surtout pas d'argent à perdre. Moi, je suis toute seule avec les trois enfants. Il est bien évident que j'aurais préféré mettre l'argent autre part que sur quelque chose qui était en train de dégringoler. Et je trouve que c'est très malhonnête parce que je suis en surendettement jusqu'en 2011. Donc, c'est pas honnête, quoi. J'ai eu l'impression de m'être fait avoir, hein, vraiment. Il a vraiment profité de mon ignorance d'un premier temps, parce que c'est vrai que moi je suis éducatrice, je travaille pas à la Banque Populaire, je connais pas. Il a profité de mon ignorance et je crois que vraiment j'ai été abusée.
Et donc aujourd'hui, sur la somme que vous aviez investie, vous savez combien il vous reste ?
En action, je crois, la dernière fois que j'ai vu, 24 euros.
Ah oui, sur les à peu près 500 euros ?
Oui, voilà, 24 euros. Donc j'espère, oui, récupérer au moins ce que j'ai investi.
Eh oui, on espère. Pigeons, 2 800 000 pigeons dans l'affaire Natixis. Encore une fois, je le rappelle, c'est pas la seule affaire. Souvenez-vous d'Eurotunnel, et il y a d'autres affaires comme ça. Alors, quels sont les recours pour ces pigeons? Ben, ils ont pas beaucoup de recours, les pigeons. C'est le risque. Ça, vous savez, hein, c'est le risque. Madame Parizeau nous l'a dit. Il faut savoir prendre des risques dans l'existence. Mais quand même, les actionnaires spoliés se réunissent autour d'une association, la DAM, ADAM, Association de défense des actionnaires minoritaires, qui est présidée par Colette Neuville.
Une des choses qui me paraît le plus grave dans le scandale Natixis, c'est le fait d'avoir utilisé des réseaux dont le nom inspire confiance, une clientèle qui fait confiance à les gens qui mettent leur argent à la caisse d'épargne. C'est des gens qui ne cherchent pas de plus-value, qui ne cherchent pas de spéculation, mais qui cherchent avant tout à conserver le capital déposé pour pouvoir le retrouver le jour où ils en auront besoin, avec des petits intérêts, mais tant pis, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est la sécurité. Donc on a utilisé ce réseau pour aller placer auprès de ces gens en leur disant, mais sortez votre argent des caisses d'épargne, sortez votre argent des plans d'épargne, ça ne vous rapporte rien, mettez-le sur ce titre, vous allez voir votre capital augmenter rapidement. Bon, et les gens les ont cru, c'est ça le problème. C'est que finalement, le discours était tellement bien fait, tellement bien formaté, aussi bien aux caisses d'épargne qu'aux banques populaires, qu'ils ont quand même réussi à séduire 2 800 000 personnes. Moi, je trouve c'est le plus gros scandale financier de. Je ne connais pas de société qui ait réuni plus de 2 800 000 actionnaires. Actuellement, on a 1 000 000 de dossiers constitués complets. On a eu beaucoup plus de, que ça de gens qui nous ont contactés, peut-être plusieurs milliers. Mais le problème de Natixis, c'est que beaucoup d'actionnaires n'ont été sollicités que pour quelques dizaines de titres. Et nous-mêmes, nous leur disons, si vous n'avez que quelques dizaines de titres, ça ne vaut même pas les frais de constitution du dossier. Donc ça aussi, ça fait partie du scandale. Hein. C'est d'avoir émietté comme ça les actions par quelques dizaines ou quelques centaines par épargnant, de manière à faire en sorte que finalement, si quelque chose ne va pas, ils n'ont pas intérêt à engager un recours. Ça fait aussi partie d'une espèce de préméditation. Si on avait été placer les titres auprès de 3 ou 4 gros investisseurs institutionnels français ou étrangers, on savait très bien que le risque de recours était beaucoup plus important. Ces gens-là ne se seraient pas laissés faire aussi facilement. Moi, j'ai à plusieurs reprises employé l'expression « massacre des innocents » parce que je trouve que ça s'applique bien à cette affaire. On est allé chercher des innocents et on les a massacrés. Donc, de mon point de vue, ça ne peut pas rester sans suite. Donc, c'est à ça que je m'attache depuis maintenant un peu plus d'un an, avec beaucoup de difficultés, puisqu'au bout d'un an, on n'a toujours pas obtenu une nomination de juge d'instruction. Et que je vois avec beaucoup d'inquiétude le projet de suppression de juge d'instruction. Qui va instruire cette affaire ? Peut-on vraiment compter sur le parquet pour instruire cette affaire dont on sait que le gouvernement voudrait bien qu'on n'entende plus parler ? La tromperie, elle vient du fait que les risques qui étaient pris par la société et sa filiale américaine principalement n'ont pas été estimés à leur juste valeur par les dirigeants qui faisaient des communiqués encore très rassurants longtemps après que les risques étaient devenus apparents. Quel était leur degré de connaissance des risques qui étaient pris aux États-Unis ? Et s'il apparaît, comme apparemment ils le disent, ils n'en avaient pas vraiment connaissance, ça pose vraiment un problème de gouvernance dans une banque. Enfin, une banque qui prend des risques à cette hauteur-là et dont les dirigeants ne seraient pas conscients des risques, ça paraît aussi monstrueux. Hein.
Bienvenue chez Natixis. Merci de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel.
Welcome to Natixis. We're trying to connect you. Please hold the line.
Stéphane Liman.
Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Charlotte Perry de France Inter.
Oui,
on
bonjour.
On s'est parlé hier.
Oui, effectivement. Donc, concernant votre demande, en fait, on va pas pouvoir y répondre dans la mesure où on a une procédure en cours. Et donc on est dans l'impossibilité de s'exprimer sur le sujet. Par contre, comme vous me parliez de l'époque de la commercialisation, en 2006, les subprimes n'étaient pas une catégorie d'actifs sujet à problématique. Sur le reste, on peut vraiment pas s'exprimer et ça.
Parce que même en dehors des subprimes, on peut pas vendre quelque chose comme étant extrêmement sûr si on sait qu'il y a quand même des risques.
Bah, vous savez pas justement.
Pas du tout.
Ah ben non.
Mais c'est qu'il y a un problème au niveau de la direction. Si...
Mais non, parce qu'à l'époque, les subprimes, ce n'était pas un problème. C'est une catégorie d'actifs comme il y en a d'autres et qui fonctionnait très bien.
Oui, mais normalement, le client doit être au courant des risques. Et là, il ne l'était pas.
Bah, ça, d'abord, moi, je n'ai pas assisté aux entretiens, j'en sais rien. En plus, on dit toujours que les conseillers et clientèles n'en ont pas parlé. Je pense que les gens n'avaient pas non plus, les gens se battaient pour avoir des titres. Et je suis pas sûre non plus qu'ils avaient envie qu'on passe 3 heures à leur expliquer que... Je pense que la plupart des gens étaient parfaitement au courant des risques. Mais ce que je vous explique, c'est que ça n'était pas un risque, le subprime. C'est une catégorie d'actifs qui ne posait pas de problème. Donc pourquoi il y aurait eu une inquiétude Là, je vous explique le contexte de l'époque, mais je peux pas m'exprimer sur ce sujet dans la mesure où on a une procédure en cours. Voilà.
Voilà. Voilà, c'est précis, ça a le mérite d'être précis, on respecte les journalistes, on respecte, comme on respecte d'ailleurs, les actionnaires. Le combat continue.
Donc vous, vous travaillez à la Caisse d'Épargne ?
Oui,
tout à fait. Et en 2006, vous exerciez quelle fonction ?
Conseiller financier.
Et vous ?
Conseiller financier également.
Et vous ?
Conseiller commercial.
Donc vous étiez là quand les actions Natixis ont été commercialisées ?
Commercialisées, oui, tout à fait.
Et comment ça se passait alors ?
En fait, on avait donc eu plusieurs privatisations, donc, et on a ressorti, moins nos dirigeants ont ressorti les listes des gens qui ont acheté toutes les actions auparavant. Et du coup, on a travaillé sur ces listings, puisque c'était des gens appétants, donc il fallait les contacter en premier. Et une fois que cette liste était apurée, il a fallu taper un peu ce qu'on appelle dans le dur, donc équiper tous les clients qui venaient à l'agence. Tout le monde devait ressortir avec son lot d'actions Natixis et de préférence des petites souscriptions, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de petits porteurs. Donc, oui, le livret A servait aussi à... On a vidé aussi des comptes de nos petits épargnants. Et puis, bon, vous savez, les conseillers financiers, on leur demande de vendre, ils vendent. Hein, aujourd'hui, un conseiller financier, c'est un vendeur, c'est plus un conseiller financier aujourd'hui. On vend aux clients ce que la banque a besoin. On ne conseille pas le client en fonction de ses besoins, c'est le contraire. La banque a besoin de ça, il faut vendre ça.
Alors, il y a eu effectivement une récompense financière à l'issue de cette opération qui a été octroyée par la hiérarchie commerciale en fonction de l'investissement de chacun. Hein, vous savez qu'en caisse d'épargne, nous appelions les rouges et les banques populaires, donc les bleus. Donc l'objectif était bien évidemment de se montrer plus performant que nos collègues des banques populaires et de réussir à placer plus d'actions Natixis que ce groupe. C'est les notions de benchmark.
Benchmark, c'est...
Le benchmark, c'est un comparatif entre agences. Tous les mois, les agences sont comparées les unes aux autres en fonction de leurs résultats. Donc ça permet de se situer, en fait. Ça permet aussi de verser une rémunération, puisque ceux qui sont bien classés au benchmark, ben, forcément, ont une meilleure rémunération. Les derniers n'ont rien, ce sont les mauvais élèves. Donc le client en pâtit, puisque forcément, il se fait refourguer n'importe quoi. Vu ce qui s'est passé, c'est une escroquerie. Hein. Je dirais que les gens qui étaient appétants, qui ont fait de la demande, qui ont demandé à avoir des actions Natixis, c'est leur problème. Hein. Ils ont voulu gagner de l'argent. Tant pis pour eux. Pour les gens, par contre, à qui on a vidé les livrets, oui, c'était une escroquerie. C'est du vol.
On a beaucoup de collègues, en fait, qui ont eux-mêmes pris des actions Natixis, pensant que c'était bien pour eux et donc bien pour les clients. Après, le problème, je pense que c'est que depuis le début de l'année, on avait fait les privatisations d'EDF, de GDF, d'Aéroports de Paris. Et tout le monde a cru que une banque d'investissement, une banque de gros, ça allait fonctionner pareil que l'énergie ou un aéroport, quoi. Et pas du tout, quoi. Hein. Et puis on était loin de savoir ce qui se passait avec la titrisation, les subprimes et ainsi de suite, quoi.
Mais bon, on sait qu'il n'y a eu aucune conséquence de la crise financière, qu'aujourd'hui les banques sont reparties à faire des spéculations sur du crédit à la consommation aux États-Unis, sur les assurances vie chez nous. Donc on n'a tiré aucune conséquence de ce qui s'était passé et c'est reparti de plus belle.
Eh oui, 2 800 000 pigeons, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui tiendront à témoigner sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37 pour le deuxième volet de ce reportage de Charlotte Perry que nous écouterons demain. Merci à Guillaume Maugeant et à Frédéric Lordon que vous aviez reconnu. Merci aussi à Colette Neuville de l'Association de défense des actionnaires minoritaires. La crise de trop, reconstruction d'un monde failli de Frédéric Lordon, c'est chez Fayard. C'est paru en mai dernier. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Ronan Mahé et Vincent Godard, c'est Koye Nguyen et Raphaël Mouterbe qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Céline Rouzet. Attends donc vos messages au répondeur de Là-bas, si j'y suis. J'en rappelle le numéro 01 56 40 37 37.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson. Arthur, l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Ben, regarde un peu devant toi et appuie sur le champignon.
Un concentré technologique qui les commande pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Après les films, l'attraction. Découvrez Arthur, l'aventure 4D au Futuroscope. Une réalisation du département de la Vienne. Futuroscope, votre prochaine destination séjour. Futuroscope. Retrouvez les tarifs et les promotions sur futuroscope.com.
Mars 2010, Stéphane rencontre Chloé. Chloé est douce, Chloé est belle, mais Chloé habite vraiment loin.
Avignon.
Quoi ? Avignon ? Bah oui, Avignon. Alors demain, Chloé sera loin. Mais heureusement...
Jusqu'au 31 mars, les billets TGV Proms sont à 25€ en seconde classe et 35€ en première pour des voyages en mai. Offre soumise à condition, également disponible sur Théo et Lunéa.
Avec TGV, Stéphane pourra donc rejoindre sa Chloé à...
Avignon.
Et voilà.
SNCF.
Allô, le conseiller gaz de France Dolce Vita.
Oui, bonjour.
Voilà, je voudrais faire des économies d'énergie. Oui. Mais pour ça, il faut sûrement que je change toute mon installation de chauffage. Et je ne sais pas par quel bout commencer.
Écoutez, commençons par le plus important. Votre chaudière, elle a quel âge ?
Ah, comme ma fille, 20 ans.
Eh bien, en la remplaçant par une chaudière à condensation au gaz naturel, plus performante, vous pouvez déjà faire jusqu'à 30% d'économies d'énergie. Ah. Et sans tout changer. C'est pas mal, non ?
Oui, alors à très très bientôt.
Tout sur la solution chaudière Dolce Vita au 0810 124 125. Prix de l'appel selon l'opérateur.
Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Préfonds retraite.
Allô, le 30-25 ? Oui, j'ai vu votre offre pour les agents du service public. Alors comme ça, je peux compléter ma retraite tout en baissant mes impôts. C'est une blague.
Préfonds vous répond au 30-25, appel gratuit ou sur préfonds-retraite.fr.
Préfonds retraite.
Complémentaire et nécessaire.
À demain, 15h, pour Là-bas, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
La manifestation nationale pour défendre l'art et la culture a quitté le Palais Royal à Paris et se dirige actuellement vers le Sénat. La journée de mobilisation a été décrétée par la CGT Spectacle et le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Les milieux du spectacle vivant et de la création sont inquiets pour leurs futures subventions. Ils craignent notamment les coupes budgétaires dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales. La déception des syndicats de l'éducation, plusieurs d'entre eux jugent insuffisante la revalorisation annoncée. C'est des enseignants. 1 sur 4 va voir son salaire augmenter de 150 à 250 euros par mois. Pour le SE-UNSA, c'est l'option la plus basse qui a visiblement été retenue par le ministre Luc Chatel. Le SNUIPP-FSU se dit profondément déçu. Ces hausses de salaire sont financées par la moitié des économies réalisées sur le non-remplacement des départs en retraite. 190 000 enseignants sont concernés. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur les routes du sud de Paris à partir de ce soir, coup d'envoi des travaux de la couverture de la 6B. Pendant 8 mois, le tronçon entre la Porte d'Italie et Arcueil dans le Val-de-Marne, un peu plus d'un kilomètre et demi, va être fermé aux automobilistes. Si vous circulez dans le secteur, la direction régionale de l'équipement vous conseille de changer vos habitudes. Toutes les informations sont disponibles sur un site. Il s'agit du www.couvertureA6B.fr. L'actualité à l'étranger. Pour la première fois depuis 3 ans, Israël va autoriser l'entrée à Gaza d'une cargaison de vêtements et de chaussures, un premier convoi de 10 camions qui devrait pouvoir passer jeudi prochain. L'État hébreu est soumis à de fortes pressions internationales pour alléger ce blocus qui concerne notamment des produits comme les livres d'école ou les crayons de couleur pour enfants. La Grèce frappe à nouveau à la porte des marchés financiers 4 jours après avoir eu la garantie d'être secourue en cas de souci par le FMI et l'Europe. Athènes lance un emprunt obligataire de plusieurs milliards d'euros à 7 ans. C'est une sorte de test mené auprès des banques françaises, notamment la Société Générale et le Crédit Agricole ont entre autres été mandatés. Les pirates de la mer somalien ont encore sévi au large du port d'Aden. Ils se sont emparés d'un cargo, aujourd'hui un cargo panaméen de 4500 tonnes. Il y a 24 personnes à son bord. Le bilan des attentats en Russie s'alourdit. Les autorités russes évoquent 38 morts et 64 blessés. 38 morts sans compter les corps des deux femmes kamikazes qui se sont fait exploser ce matin dans le métro de Moscou. La mairie a décrété un jour de deuil et la sécurité a été renforcée dans les transports, les gares et les aéroports.
Dans le prochain pont des artistes, Isabelle Dordain reçoit Salif Keita, Toumi and the Volume, now when the money's in their system, when he's green, cause a working class hero is something to be. Et Juan Carmona.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi prochain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
16h03, on poursuit l'après-midi en musique avec vous Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Le compositeur et chef d'orchestre français Pierre Boulez vient de fêter son 85e anniversaire. Certains disent que pour un chef d'orchestre, c'est assez naturel. C'est vrai qu'il y a une belle longévité chez certains chefs d'orchestre, pas tous bien sûr, chez pas mal de pianistes aussi. Et on lui souhaite de continuer encore. Pierre Boulez vient de diriger l'Orchestre Philharmonique de Vienne et il a reçu un triomphe. Il a choisi des œuvres qu'il adore, donc Stravinsky, Debussy, et la salle s'est levée pour applaudir celui qui est venu pour la 79e fois diriger la phalange viennoise. Alors on va le célébrer nous aussi, parce que vous savez qu'il est de tradition que finalement les artistes ou les chefs d'orchestre français font carrière à l'étranger, et puis ils sont un peu oubliés chez nous. Ce n'est pas le cas de Pierre Boulez, qui est un homme d'influence en plus, mais enfin, voilà, on va lui faire un grand bravo là maintenant, et je vous propose, alors que lui écrit des musiques très avancées, parfois difficiles à comprendre pour certains, et pour moi-même quelquefois, il est très honnêtement, il dirige aussi, de main de maître, des œuvres connues de tous, comme ce fameux Boléro de Ravel, une des musiques les plus jouées dans le monde.